On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Salut.
Salut Jean-Luc.
Oh, comment tu vas, ça va? Eh oui, ce soir, pour partir en week-end, vous me direz, ça tombe plutôt bien, certains ont le cœur grenadine. Et moi, j'ai le cœur nostalgie. Nostalgie de l'enfance, nostalgie de l'adolescence, nostalgie de toutes les chansons qui m'ont construit. Cette drôle de sensation, dans le souffle du vent, avec tous ces petits airs de rien qui ne vous lâchent pas et qui vous mettent en joie. Ces musiques intemporelles qui vous restent dans la tête, comme le refrain d'un chef d'orchestre qui s'envole au bout de sa baguette. Quand t'es gamin, dès que le printemps revient, tu fantasmes sur Céline. Et tu descends de la montagne à cheval, le cœur en joie. Toute l'essence de l'enfance remonte à la surface et tout le répertoire y passe. Quand tu pars en vacances et que tu dis « Hasta luego !» au poteau et « Adieu » à monsieur le professeur, tu entonnes tout de go. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau hissé haut et tu lèves ton verre en chantant « Chin, chin, chin ». Ce soir, comme des pierres qui roulent. Des pierres qui roulent dans mon cœur. J'entends toquer, toquer, toquer aux portes du paradis, car ce soir, oui, c'est mon ami que je reçois sur Nostalgie. Bonsoir, Hugo Frey.
Oh, écoute, c'est trop bien, c'est trop bien, comme disent les enfants. C'est trop bien, tu écris bien.
Ah, c'est gentil.
Et tu parles bien.
T'es un amour, on se tutoie puisque c'est le titre de l'émission, Hugo, on se connaît suffisamment bien.
J'espère bien, je trouve ça ridicule quand on se voit alors qu'on se connaît.
Ouais.
Et qu'on s'aime surtout.
Ouais, mais moi je t'aime plus que tout et plus fort que tout. On s'est croisés il y a peu de temps, on est vraiment dans l'actualité. Tu n'es plus un parfait inconnu. On va parler...
Tu sais que je viens de sortir chez Universal,
ouais.
La totale de ce qu'on appelle ma vie, quoi, mon œuvre.
Bien sûr.
Il y a 430 chansons.
C'est pas mal quand même, donc pour un parfait inconnu, ça tombe bien. Alors pour...
Mais l'inconnu, c'est parce que les gens n'en connaissent que 10 chansons.
C'est
sur
ça.
Les 430,
voilà. Alors pour ceux justement qui ne connaissent pas bien leur Hugo Frey, ou pour ceux qui auront oublié...
On a fait un
Hugo
Frey.
On a fait un Hugo Coffret, et on se remémore, Hugues. Non mais, c'est extraordinaire, on le dit parce qu'on est vraiment très léger sur Nostalgie. Ouais. 95 ans, 96 ans au mois d'août,
ouais.
Hein, on est d'accord,
ouais, absolument.
Et 105 ans de carrière. Et ça a commencé comme ça, vous vous rappelez? C'était un fameux trois-mâts.
Un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau.
La voix était claire.
Ah ouais.
Ça, c'était extraordinaire quand même. Si Dieu veut, toujours droit devant. On ira jusqu'où? Tu vas aller jusqu'où?
Jusqu'au bout, je veux aller jusqu'au bout de moi-même.
Ouais.
Voilà, c'est. Il n'y a que moi pour savoir où est le bout et c'est, je veux y arriver, c'est ça. Parce que pour moi, le drame, c'est ceux qui n'ont pas été au bout d'eux-mêmes, qui n'ont pas eu le temps d'y aller.
Exactement, et qui n'ont pas essayé, parce que toi, t'as tout essayé. Quoi.
Ouais, ouais, non, pas encore tout, donc c'est maintenant, il me reste quelques éléments que je vais exploiter.
Là, on est en 1961, et on continue en 64. Eh ben, écoute, c'est Stu. C'était ton idole.
Ouais.
C'est extraordinaire, ça, le petit cheval blanc. Je vois que les yeux se lèvent tout là-haut. Ça t'évoque quoi, là, quand tu entends Stu Ball?
Stu Ball, c'était Peter Paul et Mary. Peter Paul et ouais. Mary, un trio
ouais.
Avec, que j'ai rencontré au Blue Angel, le cabaret à New York où j'étais en 61.
Tu les rencontres comme ça par hasard ou tu vas faire des cabarets?
J'ai été invité par Maurice Chevalier.
Pour
participer à ses côtés à un spectacle au bénéfice d'enfants malades, mm-hmm. Des hôpitaux. Et il m'avait choisi après un casting incroyable. Et comment ça se... Pourquoi il m'a choisi moi? Bah, c'est parce que c'est le destin.
C'est vrai, c'est tout simplement.
Oui, parce que j'étais le plus mauvais de tous.
Ouais. Et ça, c'était il y a 60 ans, quand même.
D'être avec Maurice Chevalier à New York,
ouais.
C'était en 61.
Ah ouais, d'accord, donc ça fait bien plus que ça.
Voilà.
Et ouais. Puis après, on se réveille pour les auditeurs de Nostalgie, et puis là, c'est Debout les gars.
Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir...
Harry Belafonte.
Ah ouais.
Ouais.
Et on va au
des
bout.
Chansons, work song, des ouais. Chansons de travail.
Ouais. C'est motivant de toute manière, quoi qu'il arrive.
Mais moi, j'étais pas fait pour être chanteur, j'étais fait pour être juste comme toi, comme tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui aime entendre les gens chanter.
Ouais.
Parce que c'est une expression du bonheur, le chant. Mmh. Et j'aimais ça, mais j'avais pas du tout l'intention de faire ce métier. Mon métier, moi, ce que je voulais être, c'était un pauvre sculpteur, voilà.
Mais un petit peu. Tu voulais travailler avec tes mains et pas avec ta voix, c'est ce que tu veux dire.
Voilà, avec mes mains, c'est ça.
Pourquoi tu voulais que ça reste? Tu voulais qu'il y ait une empreinte de toi?
Non, je sais pas. Non, parce que j'étais très 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 complexé. J'avais raison.
Et à cause de quoi?
J'étais nul parce que je faisais pipi au lit.
Ouais,
ouais. Ça rigole pas, ça.
D'accord.
Mais jusqu'à l'âge de 15 ans, comment, tu vois.
D'accord.
Alors là, c'est
traumatisant pour un gamin.
Traumatisant.
Ouais.
Et je pouvais pas aller à l'école parce que maman voulait pas que je sois embêté par les professeurs ou les élèves.
Ouais.
Et donc, j'ai pu aller à l'école à l'âge de 12 ans pendant la guerre parce que j'étais externe.
Ouais.
Donc, avec mes frères.
Mais tu étais déjà à Sorèze à l'époque.
C'est à Sorèze.
C'est à côté de Toulouse, hein, pour les gens qui ne savent pas.
C'est à Sorèze, dans le Tarn.
Oui, très bien.
Une école dirigée par des Dominicains.
Bien sûr.
C'est là que j'allais tous les jours à l'école. J'étais fier, comme tout, d'aller dans la même école que mes frères.
C'était
beau.
Parce
que quand j'étais plus petit, je voyais mes frères qui allaient à l'école et moi je restais à la maison.
Ouais.
Voilà.
Et ce traumatisme, donc.
Traumatisme, il a fallu que je lutte toute ma vie contre. D'autres traumatismes, mes frères étaient plus grands que moi de taille, ils avaient plus de talent, l'aîné était le plus... il a passé quand même son bac à l'âge de 15 ans avec mention très bien en mathématiques.
D'accord.
Et il voulait faire Polytechnique, le second avait une voix d'opéra qui aurait fait de lui une star mondiale.
D'accord.
Et c'est lui qui a remplacé mon père qui était divorcé et qui m'a élevé. Et quand mon frère s'est suicidé à Montréal, ça a été un drame dans ma vie. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, la résilience permanente.
D'accord.
Il fallait que je m'en sorte chaque fois avec quelque chose qui était une grande difficulté.
Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gamins qui nous écoutent en disant il faut jamais rien lâcher? C'est quoi ta motivation à 95 ans aujourd'hui de se dire, avec tout ce que tu as vécu et ces torpeurs et ces angoisses, qu'est-ce que tu peux leur dire pour essayer de tenir le cap?
Bah, il faut aimer, il faut aimer, quoi, aimer. L'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose, c'est une énergie mystérieuse. Et je discutais avec ma petite cousine, sœur Eliane. Je dis sœur Eliane parce qu'elle est religieuse.
D'accord.
Elle est née au mois d'août comme moi, elle a le même âge que moi, exactement.
D'accord.
Elle a fait toute sa carrière.
Donc à vous deux, vous avez 190 ans.
Voilà. En Afrique, elle a fait sa carrière.
Ouais.
En tant que religieuse, elle a fait sa carrière.
Et alors, qu'est-ce que tu lui disais?
Un jour, elle me dit, est-ce que tu penses de temps en temps à prier? Elle est religieuse.
Oui, bien sûr.
Et j'ai dit, mais je sais plus. Je sais plus prier. Je sais pas ce que c'est. Comment tu fais pour prier? Elle m'a dit, eh bien, écoute, il suffit de sentir de l'amour dans ton cœur pour quelque chose, pour quelqu'un ou pour quelque chose.
Oui.
C'est l'amour qui peut te sauver.
Cette petite étincelle à l'intérieur.
Voilà, et c'est le fait d'aimer la vie. Moi, je me souviens que j'aimais la vie. Le matin, j'étais heureux de voir la lumière du jour.
Heureux de te réveiller.
Heureux de me réveiller. Mais le problème, c'est que je voyais mes frères qui partaient à l'école et moi, je restais à la maison.
Ouais.
Alors ça, c'était un peu dur. Et j'ai fini, parce que j'ai eu une mère formidable qui m'a accepté, elle m'accompagnait partout. J'étais toujours avec elle. J'ai pas été élevé, quand j'étais petit, avec des enfants, j'ai été élevé avec des grandes personnes.
D'accord. Et quand est-ce qu'il y a eu le switch, le déclic de la chanson, des cordes vocales?
Il y en a pas eu. J'ai dit, quand on me demande quand est-ce que j'ai commencé à chanter, j'ai dit, le premier cri d'un bébé, c'est déjà une chanson.
Ouais.
Et donc, ce qui s'est passé.
Mais tu as connu, on se parlait avant l'émission, tu as connu les débuts de Nostalgie, les débuts d'Europe 1, tu as connu les débuts de tout. Donc, à un moment donné, il y a eu un déclic, je dirais pas médiatique, mais il y a eu un déclic dans ta carrière.
Ce qui fait que je suis devenu professionnel parce que.
Oui, c'est ça.
Parce que, pendant le service militaire, j'avais une guitare. Et au service militaire, j'étais le seul, d'ailleurs, dans les chasseurs alpins, au 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, j'étais le seul à jouer de la guitare et à chanter, et je me suis tout de suite fait une petite réputation. Et quelques temps après, je suis rentré à Paris, ne sachant pas ce que j'allais devenir, j'étais nul en tout. Faisais des fautes d'orthographe partout, dyslexique, avec tous les handicaps, et tout d'un coup, je me baladais avec une guitare sur l'épaule, je sortais du service militaire, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur le dos, c'était un gars qui m'a dit, est-ce que vous pourriez venir chanter une chanson chez moi, ce soir j'ai des invités.
Extraordinaire.
Alors j'ai dit, mais je suis pas professionnel, il m'a dit, écoutez, venez, ça me ferait plaisir. C'était un Portugais d'ailleurs, il était directeur de la banque franco-portugaise.
Ouais.
Et j'ai été chez lui, et il m'a présenté ses invités, il y avait deux dames et deux messieurs. Mm-hmm. La première dame m'a dit, j'ai dit, il me semble que je reconnais votre visage. Me dit, je m'appelle Micheline Prel.
C'est pas vrai.
Ouais. C'était encore en 51.
D'accord.
Bon. Elle venait de tourner le Diable au corps avec Gérard Philippe.
Extraordinaire.
Ah, oh, Micheline Prel. Elle me dit, vous savez, vous pourriez me chanter au marché du palais. Puis, moi, je chante qu'en espagnol. Parce que j'arrivais d'Espagne.
Au marché du palais, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Nana Mouskouri, c'est ça?
Au marche du palais.
Ah, c'était Nana Mouskouri. Il y avait une jolie fille,
chanson du Moyen-Âge, la plus belle chanson d'amour.
Yeah.
Nous y ferions l'amour jusqu'à la fin du monde.
Et comment s'est terminée cette soirée avec Micheline Prel?
Présentez-moi l'autre dame. La dame me dit, moi je suis américaine, je parle pas le français beaucoup.
Ouais.
Comment vous appelez-vous, madame, s'il vous plaît?
Oui.
Je m'appelle Ginger Rogers.
Non.
Qu'est-ce que vous me dites? Ginger Rogers, vous êtes la partenaire de Fred Astaire.
C'est pas vrai.
Oui, monsieur. Et j'ai donc, à la fin de cette soirée, le petit Portugais m'a serré la main. Il m'a donné l'équivalent de 50 euros.
Quoi. Ouais.
Et là, je suis devenu professionnel.
Waouh.
J'ai dit, on peut gagner sa vie en chantant.
C'est quand même magnifique. Écoutez, nous sommes avec Hugo Frey sur Nostalgie, cette petite virgule musicale avant de
continuer. J'étais un peu long, mais excuse-moi.
Non, mais ne t'inquiète pas. Tu sais, Nostalgie, c'est la musique. Rien que de t'entendre, c'est une espèce de partition musicale. Et sur une partition musicale, il y a des petites pauses musicales, des petits soupirs musicaux. Je te vois chanter.
Je chante plus ce texte-là, je l'ai réécrit.
Ouais.
Ce qui prouve que, quelqu'un m'avait dit un jour, toi, tu es la différence avec les autres, c'est les professionnels, toi, tu es resté un amateur.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai. Et aujourd'hui, je refais des textes des chansons d'il y a 60 ans.
Oui.
Par exemple, je ne chante plus ce texte-là.
Voilà. Si toutefois vous venez de nous rejoindre sur Nostalgie, c'est bel et bien Hugo Frey qui est
là. Ouais.
Et ouais, c'est ça. Je vois Hey Mr. Tambourine Man, c'est une reprise, on peut dire, aux auditeurs.
Bien sûr, oui. C'est les transmissions, c'est les traductions qui avaient pour but de faire comprendre aux Français qui ne parlent pas l'anglais ce que chantait Bob Dylan.
Ouais, alors l'histoire de Bob Dylan, on est en plein dans l'actualité sur Nostalgie. Voilà. C'est cette parfaite inconnue, extraordinaire. On va en reparler, interprété par Timothée Chalamet. On s'est vu à l'avant-première. Il est incroyable, d'accord, dans le rôle de Bob Dylan.
Apprenez ce nom par cœur, Timothée Chalamet.
Ouais. Alors, il joue de la guitare, il chante comme Bob Dylan, il a mis 5 ans à faire ce rôle, à créer le personnage en fonction de lui, tant et si bien qu'au bout du compte, on pense que c'est réellement lui, quoi.
Moi, je sais pas ça, ma réaction, c'est de dire que sa performance est extraordinaire.
Ouais.
Allez voir ce film, parce que c'est de la musique depuis le début jusqu'à la fin.
C'est fantastique, c'est une espèce de biopic, mais sur un temps très court.
C'est mieux qu'un biopic.
Ouais, c'est sur 4 années de sa vie
qui
ont été des éléments déclencheurs.
C'est les années que j'ai passées à New York, à peu près.
La rencontre de John Baez, fantastique.
Elle est formidable, la fille qui incarne John Baez.
Merveilleuse.
Elle chante mieux que John Baez,
parce
qu'elle chante plus moderne, alors que Dylan, à un moment donné, c'est vrai, je sais que je l'ai entendu dire, il disait à John Baez, mais tu sais pas chanter, tu chantes trop, il faut pas chanter comme ça.
C'est fantastique.
Il chantait vrai, et il avait raison. Et la fille, elle chante vrai, donc c'est...
Ta rencontre avec Dylan, parce que nous, si tu veux, ça, on parle d'un temps, effectivement, que tu as connu.
Oui.
Cette première rencontre, c'est un élément déclencheur, ça se passe comment, Hugues?
Je l'aperçois d'abord à travers une vitre, c'est là, en 61.
Ouais.
61. Je suis un des premiers, et il le dit lui-même que je suis le premier qui lui a annoncé qu'il allait faire une carrière mondiale.
Ouais.
Et il a dit ça en public au Parc de Sceaux quand on a chanté ensemble, quand il est venu en France,
ouais,
par la suite.
Ouais.
Et cette rencontre, elle n'a pas pu se faire en 61 parce que je parlais pas du tout de l'anglais. Je le parle très mal encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et il y a autre chose que je dois dire, c'est que Dylan parle pas du tout le français et il parle un anglais que même les Américains ne comprennent pas toujours.
C'est bien quand même pour la compréhension et pour l'échange avec lui. C'est quand même
très compliqué.
La base, ça commence bien quand
même. Donc en 61, je l'ai découvert.
Ouais.
Mais j'ai fait sa connaissance en 62 et en 63 quand il est venu chez moi à Paris.
Ouais.
En bas de la rue Mouffetard où j'habitais, au rue Sancier.
D'accord. Et ça a été un déclic tout de suite.
Mais j'ai tout de suite compris que j'étais en face. Je ne suis pas Verlaine, loin de là.
Ouais.
Mais quand Verlaine a vu Rimbaud arriver chez lui, eh ben c'est exactement ce que j'ai éprouvé quand j'ai vu arriver Dylan chez moi.
Il a des mots dithyrambiques sur toi. Hein. Il est extraordinaire. Il parle de toi avec des mots fantastiques et très respectueux.
Et il est très fidèle. Ça, ouais. C'est la fidélité en amitié, pour moi, c'est très important. C'est plus important que la fidélité en amour, quoi. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a la notion de sexe qui vient tout troubler. Ce qui est vrai que quelquefois, il y a des petites, comme ça.
Oui, des passages.
Des petits passages, oui.
Bien sûr.
Tandis qu'en amitié, on n'a pas le droit de trahir. La trahison en amitié, c'est terrible. Et lui, il est fidèle.
C'est quand même merveilleux. Parce que sa carrière, médiatiquement, on sait pas.
Ouais.
Il a une espèce de pudeur, Bob Dylan, sur sa sur un vide personnel.
Ouais.
Même dans le film Le Parfait Inconnu, interprété donc par Timothée Chalamet, on ne sait pas. On sait qu'avec Jumbe, ceci, cela, mais sur cette immense carrière jusqu'à aujourd'hui, il a été d'une pudeur exemplaire,
absolument,
et d'une sincérité également.
Ouais. Moi, je l'ai connu dans l'intimité. Un jour, quand j'étais à New York, j'étais à Woodstock. Et je dormais, avec le décalage horaire, j'étais pas réveillé à 10h du matin,
ouais.
À 9h du matin. Et il y a quelqu'un qui m'a tiré par les pieds, qui est sorti du lit, c'était Bob Dylan.
C'est extraordinaire. Ouais. C'est pour ça que ça a donné un coffret 5 disques. Avec toutes les chansons de Bob Dylan.
Voilà.
Quelques chansons interprétées par Hugo Frey,
voilà.
De 1965 à 2009. Et je trouve que ce coffret, il est magique, il est magnifique. Pour ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment les mots, parce que toi, tu es un passionné des mots.
Absolument.
C'est vraiment quelque chose de... C'est un petit bijou dans un petit écrin.
En tous les cas, je suis content qu'ils viennent de sortir ça à l'occasion de ce film.
Ouais.
Et j'ai été voir ce film, mais pas en traînant les pieds, mais je me disais, quelle catastrophe ça va être.
Je me suis dit exactement la même chose, on était dans la même séance, ouais, au même moment.
Et on était émerveillés tous les deux en même temps.
Mais subjugués.
Subjugués.
On est sortis, on s'est dit, t'as vu ce que j'ai vu ?
Ouais.
Alors que toi, tu l'as vécu de plein fouet.
Et j'ai reconnu mon New York à moi des années 60.
Ouais.
C'est fou comment ils ont réussi à reconstituer les rues avec les vieilles, avec les voitures de l'époque.
Les bagnoles, ouais.
C'est tout. C'est pas un film, c'est un documentaire.
Ouais, tu as raison. Les vieilles Plymouth, les vieilles Chevrolet, voilà. Qui étaient là.
Et depuis le début jusqu'à la fin, il y a de la musique tout le temps et on a l'impression d'être dans un documentaire, non pas dans un film.
Exactement, ça s'appelle Un Parfait Inconnu avec, voilà, Timothée Chalamet en ce moment sur les écrans. Et puis alors, je continue ton petit bout de carrière hein, pour les auditeurs. Là, vraiment, je parlais de coup de cœur et en 1965, a débarqué sur les ondes Céline.
Dis-moi Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici.
L'histoire, elle commence comment de cette Céline?
Welbeck qui m'a révélé Céline.
Vas-y, je t'écoute.
Ben, j'ai enregistré Céline. C'est une chanson, une musique que m'a apporté Mort Schumann.
Ouais.
Je suppose que c'est une musique du folklore juif polonais.
Ouais.
Dont son origine. On a fait des paroles. Évidemment, Céline, c'est pas ma sœur.
Mm-hmm.
Ma sœur, c'est mon frère qui m'a élevé, Francesco, qui incarne ce personnage, qui s'est penché sur moi quand j'étais petit garçon. Et c'est à lui que c'est l'émotion de l'avoir perdu qui m'a inspiré aussi d'écrire ça avec Vlaine Bugy. Et c'est une chanson qui a eu énormément de succès, mais c'est pas du tout du rock, du folk.
Non, hein. Non, du tout.
Encore que ça sonne comme une chanson.
Les petites guitares derrière. Hein.
Du quand même du folklore polonais, juif polonais.
D'accord.
Ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que ta question, c'était quoi?
Non, je me disais qui était cette Céline, parce que nous,
Céline, c'est mon frère.
Ben voilà, c'est ça. Non, ouais. Mais ce que je trouve très 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 intéressant, parce que quand la semaine dernière on reçoit Marc Lavoine, ouais. Elle a les yeux revolvers, c'est sa mère. Ah, il le chante pour sa mère. Ah, et ouais. Toi, Céline, tu le chantes pour
ton frère.
C'est pour ton frère. Je trouve ça fantastique quand même.
Ouais, ouais.
L'histoire des chansons, elle est quand même merveilleuse. Ouais, ouais.
Et Vlaine Bugy, elle s'inspirait de son émotion, c'était qu'elle avait perdu sa sœur aussi. Donc tu vois, c'est
l'histoire de la famille revient encore et encore.
Oui, c'est des choses qui nous sont dont on ne peut pas se détacher. On est dans toute sa vie, on vit sa jeunesse.
C'est génialissime. Voilà. Alors, en parlant de toute sa vie, on vit sa jeunesse. On va peut-être revenir du côté de Sorèze à ton lycée, parce que Sorèze, là, ouais. L'élément détonateur pour moi, qui suis gamin à l'époque à l'école, c'est adieu, monsieur le professeur.
Ah ouais.
Adieu, monsieur le
ça c'est
oui.
Monsieur Hugo Frey, qui est notre invité ce soir sur Nostalgie, voilà. Descend de la montagne. Eh oui.
Elle descend la montagne à cheval. Elle descend de la montagne.
Elle descend de la montagne.
Moi, je veux restaurer, réhabiliter le scoutisme.
Ouais. Alors, Baden-Powell, alors.
Ah oui.
Retour de Baden-Powell.
Je commence par le commencement.
Oui.
Le scoutisme a été introduit dans le monde par un type qui s'appelle Baden-Powell.
Mm-hmm.
C'était un militaire qui, quand il a pris sa retraite, a voulu s'occuper des enfants.
Mm.
Et il a créé un mouvement qui était laïque. Complètement
oui,
laïque.
Ce qui fait peur aux auditeurs, c'est que tu dis que c'était un militaire, donc d'un seul coup, ça fait peur à tout le monde.
Voilà, voilà. Alors qu'il n'était pas. C'est un écologiste avant tout le monde.
Voilà, alors parce ça, il faut le dire.
Comment apprendre à un enfant l'éducation à vivre en groupe, avec d'autres enfants, propres, hein, de savoir vivre à l'extérieur, c'est-à-dire dans la nature, dormir sous la tente, respecter la nature. Et qu'est-ce qui fait partie de la nature? Les animaux, respecter les animaux.
Ouais.
Donc c'est vraiment
l'essence même.
Le scoutisme,
même. Ouais.
C'est l'écologie à l'état pur.
Et il faut prendre les bonnes choses et laisser les mauvaises.
Voilà. Non, c'est en tous les cas une chose que je voulais te dire, c'est que les gens, personne, j'ai demandé aux gens, vous savez d'où vient le mot scout? Ouais, ça vient de l'anglais, scout, l'éclaireur. Oui, d'accord, l'éclaireur. Ouais. Scout, ça vient du français. C'est un mot français.
Ah, vas-y, alors vas-y, parce que j'ai pas la référence.
Écoute-moi, Reichmann, écoute-moi, j'ai besoin de te parler. C'est un nom occitan. Escucha.
De la langue d'oc.
Voilà, escucha en espagnol.
Escúchame.
Escúchame.
Oui.
Eh bien, escute. C'est l'école, c'est apprendre aux enfants à écouter.
Extraordinaire. Alors là, j'apprends quelque chose, tu me sidères.
Le contraire de mai 68 qui disait il faut dialoguer avec un professeur ne doit pas dialoguer avec un élève. Il ne doit pas dialoguer, il doit l'écouter. Si tu vas aux Indes pour apprendre à jouer des tablas, comme ça, la première chose que le professeur te dira, vous n'avez pas le droit de parler.
Extraordinaire.
Voilà. Et je sais que je viens de te révéler quelque chose. Nous sommes aujourd'hui, le 21e siècle, dans le siècle des révélations. Révélation, en grec, ça se dit apocalypsos.
Et ben voilà. Alors on termine ce petit parcours avec notre invité. Évidemment, vous l'avez bien compris, Hugo Frey sur Nostalgie, avec toujours dans les années 70. Alors là, les colonies, c'est ça.
Ben voilà.
Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se revoit à soupe. On a trois mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit.
On laisse passer un petit peu de musique parce que c'est... Ouais. Je te sens rêveur quand tu réécoutes ça. On est en 1972, si je me trompe pas.
Ouais, c'est pour le père Jaoued que j'ai fait ça.
Vas-y, je t'écoute.
Jaoued, c'était un breton, marin breton, qui a été pendant 30 ans aumônier dans les prisons. C'est-à-dire qu'il s'occupait de redonner l'espoir aux prisonniers. Et j'ai connu cet homme extraordinaire. Il est décédé maintenant, mais il écoute l'émission Nostalgie tous les jours.
C'est vrai?
Ouais. Et il sait très bien que j'ai fait cette chanson pour lui. Laissez passer les enfants de la nuit, ceux qui sont perdus dans la drogue. Ils vont chercher l'espoir.
Ouais.
Et le père Jaoued avait armé un trois-mâts, le seul trois-mâts français qu'il y avait à l'époque. Hein, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, qu'il a baptisé Le Bel Espoir. Et c'était pour emmener les enfants qui étaient drogués pendant 15 jours à travers le monde, pour leur redonner
l'espoir
qu'ils avaient perdu.
Extraordinaire. Écoutez, voilà, sur Nostalgie, c'est Monsieur Hugo Frey. Je suis très ému, je suis très fier. Je suis très fier d'être ton ami, on va en reparler. J'ai eu la chance de vivre des moments fantastiques avec ton épouse Muriel, puisque j'étais présent à ton mariage. Il y a une personne, je pense, qui a compté dans ta vie, et on va en parler dans un instant, c'est Monsieur Johnny Hallyday. Effectivement, on l'écoute. Hugues, bah ouais, on va parler évidemment de toutes ces dates de concert. C'est une histoire de fou, tu t'es surchargé de ces...
Ouais.
Ouais, là tu t'es surchargé. Je vois en avril Lille, Biarritz, Le Touquet, Barbière, Béziers, Amiens, Bordeaux, Arras, Versailles. Je sais pas comment tu tiens, on va en parler après, parce que c'est fou, c'est jouer les tours, Plougastel, Perpignan, La Baule. On parle de ta promo, puisqu'on a déjà parlé de ce coffret... 5 disques, mais complètement fou. Je sais pas comment tu fais à 95 ans pour tenir la barre. Tu sais pas?
Je sais pas comment.
T'as quand même quelque chose dans la vie en plus, non?
Je me fais avoir surtout par les producteurs qui me font travailler.
Mais c'est un moteur ou pas pour toi le travail?
Oui, non, mais maintenant il faut que je trouve un peu de l'espace pour écrire un peu quand même ma biographie, parce que j'ai peur que quelqu'un l'écrive à ma place.
Il faut que tu l'écrives.
Oui, il faut que je l'écrive.
Ouais. D'accord, je vais t'accompagner là-dedans.
Oui, tu sais, tu m'as déjà aidé.
Ouais, je sais, mais c'est un plaisir. On met une petite virgule, voilà, on parle un petit peu de ta pub à toi, et puis il y a la pub à nous.
Merci.
On se tutoie sur Nostalgie
avec Jean-Luc Reichmann tous les vendredis soirs 19h-20h et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.